Chapitre 84. 30 décembre 2017. Marie Castille raccroche. Elle encaisse l'information. Marie-Laure vient de lui lire l'article. Clotilde Marais se serait jetée sous les roues d'une voiture. Le type qui conduisait n'a pas de casier. Un bon père de famille qui a préféré se taire parce qu'à l'époque il n'était pas clair. Ça reste à prouver. Il l'a peut-être renversée parce qu'il avait bu et s'est débarrassé d'elle. Cette vieille affaire résolue. Cette histoire exhumée. Tout cela grâce à une municipalité lambda qui a décidé de réhabiliter une partie du lac. Marie Castille était près d'Étienne il y a 3 semaines, lorsqu'il a appris qu'on avait retrouvé une voiture au fond de l'eau. Il est devenu blanc comme un linge. Il a prononcé plusieurs fois. Je l'avais vu. Je l'avais bien vu, je suis pas fou. Quoi, mon amour? Qu'est-ce que tu avais vu? La voiture. Combien de fois Étienne s'est-il réveillé en appelant Clotilde? Se demande-t-elle. C'est ça qui l'a tué. Ravagé. Clotilde Marais est l'animal qui a rongé Étienne de l'intérieur. En mourant, elle l'a emporté avec elle, lui a mis un pied dans la tombe. Il faut qu'Étienne sache. Marie Castille le sent. C'est vital. S'il sait qu'il n'a rien à voir avec cette disparition, peut-être que tout changera. Peut-on inverser le sens des rivières? Parfois oui, sûrement. Il existe des courants contraires. Elle doit rentrer à la maison. Le seul qui pourra relayer l'information, c'est Valentin. Marie Castille se doute que son père le contacte. Leur fils est le seul qui relie Étienne à leur monde, celui des vivants. Si son mari est parti avec Nina et l'autre, c'est parce qu'il représente le passé et non le présent. Ce sont des fantômes. Elle monte dans la voiture et répète à voix haute ce qu'elle va précisément dire à son fils. « Mon amour, quand papa te téléphonera, oui, je sais qu'il te téléphone, tu lui dis exactement ces mots. Un homme s'est dénoncé à propos de la voiture du lac. Tu lui dis juste ça. Un homme s'est dénoncé à propos de la voiture du lac. Ton père comprendra. » Valentin va me poser des questions, réalise Marie Castille. Me demander des détails sur cette affaire. Merde, qu'est-ce que je vais répondre? Merde, merde, merde! Elle freine brutalement et se gare sur le bas-côté. Elle s'écroule sur le volant. De violents sanglots la secouent, se déchaînent. Elle ne peut décemment pas dire à son fils de 14 ans « Quand papa était jeune, il a mis enceinte une fille qui a disparu le soir où il avait rendez-vous avec elle. Ça l'a hanté toute sa vie, et il est parti mourir loin de nous. » Son téléphone vibre dans sa poche. Marie Castille regarde l'écran. Numéro inconnu. Se mouche, finit par répondre. Elle entend
« C'est Nina ».
Palerme. 18 degrés à l'abri du vent. Étienne et moi sommes allongés sur la Spiaga della Renella, à 2 pas de notre pension. Je fais des dessins dans le sable, de drôles de maisons aux murs penchés, tandis qu'Étienne regarde la mer. Loin de nous, je devine la silhouette de Nina qui marche dans l'eau. C'est beau l'hiver en Italie. « Tu as ce que tu veux ?» je demande à Étienne. « Oui, » me répond-il en fixant l'horizon. « Tu as faim ?»« Non. » Tu as mal? Non. Tu veux que je téléphone à quelqu'un? Que je donne des nouvelles à tes parents? Non. Mon père ne m'aime pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que je le sais. Je dois avoir une tête qui lui revient pas. Peut-être que si j'avais eu d'autres enfants, il y en a un que j'aurais moins aimé que les autres. L'amour, ça se discute pas. Mon père... Je ne l'ai jamais revu depuis que j'ai écrit des enfants en commun. Ça fait un sacré bail. Il te manque pas? Les inconnus ne peuvent pas nous manquer. Il sait qu'au fond t'es une fille. Je compose tellement avec mes deux existences que la question d'Étienne me prend de court. Dès que nous sommes tous les deux, il ne me parle que de moi. Même ma mère ne l'a jamais su. C'est mon plus grand regret. L'avoir laissé partir sans le lui dire. Louise, elle sait qu'on est ici, à Palerme. Louise sait tout. Tu veux que je lui demande de nous rejoindre? Non, surtout pas. Quand je serai mort, je voudrais que tu te fasses opérer. Parce que je sais que si tu l'as jamais fait, c'est à cause de moi. Tu as peur du regard que je pourrais avoir sur toi. C'est moi qui t'ai empêché. Tu n'y es pour rien, Étienne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Promets-moi que tu le feras. Je ne peux pas te promettre. Louise sera avec toi. Je veux dire, si tu te décides un jour, c'est elle qui t'accompagnera. Oui, elle n'attend que ça. Que moi. Louise attend Virginie depuis 30 ans. Alors fais-le. Jure-moi. Je te le jure. Sur ma tête? Ça sert à rien de jurer sur ta tête puisque tu vas mourir. On jure sur la tête de ceux qui sont en bonne santé. On éclate de rire ensemble. Nina revient vers nous en courant comme si elle avait vu le diable. Quand elle arrive à notre hauteur, elle est trop essoufflée pour sortir le moindre son. Ne reste que son souffle rauque que l'on connaît par cœur. Étienne l'engueule. « Mais pourquoi t'as couru comme ça? T'es dingue ou quoi ?»«
Mais c'est parce que, Étienne, parce que... Clotilde, c'est fini. »
La mère de Clotilde Marais est assise sur son canapé. Elle ne l'a jamais changé depuis que sa fille est partie, pense-t-elle. 23 ans. Elle a refait quelques peintures, retapissé la salle à manger, posé une nouvelle moquette dans la chambre, mais elle a gardé le vieux canapé. Elle entend son mari faire les 100 pas à l'étage. Il doit être en train de penser au procès, aux avocats. C'est sans doute sa manière à lui de résister, de chercher ce qu'il reste de vivant à l'intérieur de lui. Il va vouloir prouver que Clotilde ne s'est pas suicidée, mais qu'elle a été renversée par un homme en état d'ivresse, et peut-être pire. Mais moi, je le sais bien que ma fille allait mal. Je le dirai. Je le dirai que ce Bernard Roy est une victime collatérale. Comme nous. Nous sommes tous des victimes de la disparue. Depuis 23 ans, pour les autres, je suis la mère de Clotilde Marais, la mère de la fille qui s'est volatilisée le 17 août 1994, la mère de la fille qui a renié sa famille, la mère qui est passée à la télé, les yeux cernés, qui a déballé sa vie. Personne ne sait comment je m'appelle. Comme tous les parents d'enfants disparus, nous ne sommes plus que les parents d'eux. Nous sommes destitués, parce que nos enfants se sont évanouis, partis sans laisser d'adresse. Cela fait 23 ans que j'ai perdu mon prénom et je suis vieille à présent, à la retraite. Voilà, c'est fini. Il y a une chanson qui dit ça. Je ne l'ai jamais aimée. Elle est beaucoup trop triste. L'idée que Clotilde vive à Salvador de Bahia, c'était ce qu'il y avait de mieux pour les autres. Qu'elle boive de l'eau de coco au petit déjeuner, ses beaux cheveux blonds ramenés en chignon. Qu'elle grandisse ailleurs. On est allé au Brésil en 2001. On a montré un portrait d'elle qu'un logiciel avait un peu vieilli. Moi, je savais bien que personne ne l'avait jamais vue. Je faisais semblant de chercher pour faire plaisir à mon mari. J'ai toujours pensé qu'elle s'était cachée pour mourir, pas cachée pour vivre. Elle ne me racontait plus rien à la fin, ma fille. Elle n'était plus qu'un mystère. Elle trimbalait des nuages de tristesse. Elle faisait semblant pour tout. J'avais le sentiment de vivre sous le même toit qu'une mauvaise comédienne. Une étrangère qui avait étouffé ma petite fille. Moi qui laissais croire aux autres que Clotilde avait 41 ans. Au fond, j'ai toujours su qu'elle en avait 18. Une mère sans ces choses-là. 17 août 1994. Cette date ne correspond ni à une naissance, ni à une mort, ni à un anniversaire. C'est juste la date d'une disparition. Et quand l'autre, la chalonnaise, nous a soutenu mordicus qu'elle avait croisé Clotilde à Salvador de Bahia, j'ai fait semblant de la croire. Pareil pour la vieille Bic qu'il avait soi-disant vue à la gare le soir où. Faire semblant de les croire nous a permis de continuer à vivre sans elle. J'ai même fini par profaner sa chambre, mis ses affaires dans des sacs plastiques que j'ai déposés dans une benne du Secours populaire. J'ai dégagé son lit et mis un bureau à la place, avec un ordinateur dessus. Un bureau avec beaucoup de classeurs vides qui ne servent à rien. Mon mari m'en a voulu. Je me demande pourquoi nous n'avons pas déménagé. Au cas où elle reviendrait, où elle retrouverait son chemin. Même nos voisins sont partis. Les vieux ont été remplacés par des jeunes, de nouvelles familles, des bambins. Nous seuls sommes restés. Notre fille nous a condamnés à rester, à l'attendre. Et voilà qu'à présent, c'est fini. Nous ne l'attendrons plus. Le téléphone, il n'arrête pas de sonner. Des condoléances, des amis, des curieux, des journalistes. Étienne Beaulieu au bout du fil. Combien de fois sa fille a-t-elle espéré entendre cette voix en décrochant ? Combien de fois est-elle rentrée en demandant « Quelqu'un m'a appelé ?» Et voilà que cet appel arrive 23 ans trop tard.
« Je suis désolée, Annie. »
articule-t-il. « Ça me touche que tu te souviennes de mon prénom. » Ta mère est passée me voir ce matin. Elle m'a dit pour ton cancer que tu ne voulais pas te faire soigner.
Stade 3, c'est foutu.
C'est jamais foutu, Étienne. Sauf quand les gendarmes débarquent chez toi pour t'annoncer que ta fille est morte. Tu savais que Chloé était enceinte ? Étienne met un long moment avant de répondre.
Oui.
Tu savais qu'elle avait fait une fausse couche ? Je ne l'ai jamais dit à personne. 4 jours avant sa disparition, j'ai retrouvé ses draps dans la machine à laver, plein de sang. Elle n'a jamais su la faire fonctionner. Elle avait vidé une bouteille d'eau de Javel dans le réservoir avant d'appuyer sur le mauvais bouton. J'ai tout de suite compris. Et plus tard, j'ai trouvé un livre sur la grossesse dans le tiroir de sa table de nuit. Le matin dont je te parle, je suis allée dans la chambre de Clos pour lui annoncer que le facteur était mort. Je savais que c'était le grand-père de ta meilleure amie. C'était un prétexte, cette intrusion dans sa chambre. Je voulais la voir. Je n'oublierai jamais son visage. Elle était pâle, livide même. Elle sortait de sa douche. J'ai vu sa silhouette, ses formes. Je n'ai rien dit. J'aurais dû lui parler. J'ai respecté son silence par lâcheté. J'ai jeté les draps à la poubelle. Il fait semblant de ne pas voir ses protections périodiques dans la salle de bain. Long silence. Étienne pense que la ligne a été coupée.
Vous êtes toujours là ?
Oui, souffle-t-elle.
Il faut que je vous dise quelque chose, Annie.
Elle l'interrompt comme si elle ne voulait plus rien entendre. Tu viendras à son enterrement ? Demande-t-elle.
Je vais mourir.
Qu'est-ce que tu racontes ? Tu respires encore, toi ?
Plus pour longtemps.
Qu'est-ce que t'en sais ?
Je le sens.
Bats-toi, nom de Dieu. Elle raccroche.